Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.
I have a dream. It's one small step for man.
Une Amérique qui est maintenant multiculturelle, multiforme.
One nation under God, indivisible, with liberty and justice for all.
Bienvenue dans l'Amérique et vous, chers fidèles auditrices et auditeurs. Merci de choisir VOA Afrique. À la présentation, Eric Manilakidza, la mise en onde est assurée par Michel Claire-Joseph. Ce soir, nous parlons de la vie, l'œuvre de Boubacar Boris Diop et son prix littéraire Neustadt qui lui a été décerné dans l'État américain de l'Oklahoma. Boubacar Boris Diop est le troisième écrivain d'expression française à décrocher ce prix, équivalent du Nobel de littérature. Il est aussi le quatrième écrivain, incluant les anglophones et les lusophones, à le gagner. Cet éminent romancier, dramaturge et essayiste africain, que représente ce prix pour lui? Nous en parlons dans un instant avec nos invités. Nous sommes en ligne avec la professeure Boyana Koulibaly, Program Manager des langues africaines à Harvard, et travaille avec Boris Diop à la maison d'édition Ejo. Bonsoir.
Bonsoir.
Notre deuxième invité, Josias Semujanga, professeur titulaire à l'Université de Montréal. Il est l'auteur de nombreux ouvrages, dont l'œuvre de Boubacar Boris Diop. Bonsoir.
Bonsoir.
En Pennsylvanie, Jean-Pierre Karegeye, professeur de littérature à Dickinson College. Il a préfacé le roman au centre du prix de Boris. Jean-Pierre, bonsoir.
Bonsoir, Eric.
Boyana, je commence avec vous. Que représente ce prix pour vous?
Ce prix pour moi représente le fruit de très longues années de travail et de détermination de Boubacar Boris Diop, qui durant toute sa vie a cherché ou a plus ou moins très bien réussi à maintenir une perspective, je dirais intellectuellement sincère, sur l'Afrique, sur le monde qui l'entourait, le Sénégal, en tant que penseur panafricain, inspiré de la pensée de Cheikhanta Diop, de la pensée de Mango Betty, d'Aimé Césaire et bien d'autres. Et donc ce prix effectivement est une illustration de l'importance du travail de Boubacar Boris Diop, de sa détermination à toujours dire la vérité ou de décrire la vérité, mais aussi de son grand talent en tant qu'écrivain de fiction, d'essais, de textes philosophiques et politiques. Et c'est tout à fait normal qu'il reçoive ce prix. Il le mérite et il mérite encore plus que cela.
Ce prix représente beaucoup pour Boris Diop, mais il souligne dans un entretien avec VOA Afrique qu'il n'écrit pas pour viser des prix littéraires. Boyana, vous vous intéressez à la littérature africaine en langue africaine. Murambi est écrit en Wolof, puis traduit en anglais. Est-ce la reconnaissance de la langue Wolof comme le dit bien Boris?
Oui, donc Murambi a effectivement été écrit en français, mais après son expérience au Rwanda en 1998, donc 4 ans après le génocide des Tutsis, le livre a été écrit, Murambi, le livre des ossements. Boubacar Boris Diop a eu une prise de conscience qui lui a permis de comprendre que l'emploi de la langue d'écriture de ses œuvres de fiction donc avait une importance indéniable. C'est en effet jusque-là où il a plus ou moins évolué dans un contexte où le français était considéré comme la seule langue pouvant transmettre des idées sociopolitiques, philosophiques, mais aussi la seule langue d'écriture littéraire. Donc, deux éléments importants ont contribué à la décision de l'auteur de basculer vers l'écriture dans sa langue maternelle, donc le Wolof. C'est tout d'abord la complicité de la France dans le génocide des Tutsis, qui a donc entraîné la mort de plus d'un million de personnes entre avril et juillet 1994. C'est cette complicité qui, en très grande partie, était le résultat du choix déterminé de la France de combattre la domination de la langue anglaise dans le monde. Et donc, le Rwanda, qui était un pays francophone, donc suite à la colonisation belge, risquait de rejoindre la liste des pays africains anglophones. Et donc, Boubacar Boris Diop, après avoir découvert l'horreur du génocide des Tutsis avec la complicité de la France, il lui était devenu impossible de continuer à écrire dans cette langue, qui, de surcroît, était la langue d'assujettissement et de domination coloniale dans son propre pays, le Sénégal. Et c'est donc suite à cette prise de conscience qu'il a décidé d'écrire en Wolof et également parce que c'était la langue dans laquelle il a été plus ou moins initié au monde imaginaire à travers les contes que sa mère contait le soir. Elle l'avait plus ou moins initié à cette écriture, à l'art d'écrire et à l'imaginaire. Donc ça lui permettait de revenir, de faire un retour sur soi et d'écrire dans une langue qui avait une certaine vibration et musicalité que le français ne pouvait pas transmettre. Donc Morambi, c'est un point de départ. C'est écrit en français, traduit dans beaucoup de langues. Mais à partir de Morambi, il a commencé à écrire en Wolof. Plusieurs romans, maintenant il y en a trois. Il a aussi traduit Une saison au Congo d'Aimé Césaire en Wolof.
Jean-Pierre, vous avez écrit la préface de Morambi, ce qui représente une grande émotion pour vous, n'est-ce pas? Que retenez-vous de Morambi? Pourquoi cette œuvre est si importante?
Oui, cette œuvre est importante et je crois qu'une des raisons pour lesquelles Boubacar Boris Diop a accepté ce prix et il était content d'ailleurs parce que c'est une personne très réservée et qui méprise en général les prix. Et je crois que en acceptant le prix, quand il, c'est qu'il avait dit, c'est une œuvre comme Morambi, c'est à cause ou grâce à une œuvre comme Morambi. Donc parce que Morambi représente dans une certaine mesure et son combat de façon générale, lui qui est dans une littérature engagée. Donc ça c'est un élément assez important et moi aussi. Pas seulement comme enseignant, mais aussi comme Rwandais, sachant ce qui s'était passé au Rwanda en 1994 et avoir le rôle des écrivains, dont Boubacar Boris Diop. Ça, c'est un élément important. Un deuxième élément, évidemment, c'est qu'on ne peut pas, et vous l'avez bien fait, on ne peut pas détacher le combat sur des questions sociales et politiques de Boubacar Boris Diop, par exemple à travers Morambi, et aussi les œuvres en langue africaine. Parce que la découverte de Morambi est partie d'abord, d'ailleurs Brianna l'a bien dit, et à partir d'une lecture d'un roman qu'il avait écrit en Wolof, évidemment, à Domingo Lo, c'est assez intéressant de voir comment tout tourne. Donc il y a l'expérience du Rwanda, l'écriture de Morambi, le livre des ossements, et cela l'amène ou le ramène à réécrire, à écrire dans sa langue maternelle ou dans le Wolof. Et la personne qui a nominé Boubacar Boris Diop a découvert Boris Diop à travers un livre qui est écrit d'abord en Wolof, Domingo Lo, et traduit en anglais. Et alors, c'est à travers ces découvertes que Jennifer Croft, donc, il avait lu et s'est intéressé aux autres textes de l'écrivain. Et c'est là qu'il est entré en contact, qu'il a découvert Morambi, le livre des ossements. Donc, les deux sont liés par rapport à ce prix. Mais je crois comme le plus important, c'est de voir un écrivain, et quand on parle donc de Morambi, et qui ne restait pas indifférent par rapport aux tragédies africaines, aux tragédies humaines. Et c'est pourquoi, pour moi, Morambi représente quelque chose de très important. Je dirais sur le plan thématique, mais évidemment sur le plan comme roman, comme œuvre littéraire, c'est aussi une autre question. C'est un de ces romans. Il y a eu au moins 9 romans publiés autour du génocide des Tutsis de 1994, mais je crois que c'est le roman le plus lu et d'ailleurs le plus connu.
L'Amérique et vous, en direct de Washington.
Josias, vous avez écrit l'œuvre de Boubacar Boris Diop. Vous êtes aussi spécialiste de la littérature sur le génocide des Tutsis. Vous avez écrit plusieurs articles sur Morambi. Voudriez-vous nous parler de l'homme Boris Diop ou de l'écrivain ?
Merci pour la question. En fait, Boris Diop, je voudrais d'abord, en tant que critique ou historien de la littérature africaine, le situer par rapport à d'autres écrivains et de dire ce qu'il apporte de nouveau et la continuité par rapport aux écrivains comme Mongo Betty, Sebène Ousmane et bien d'autres. Boris Diop vient en fait à l'écriture dans les années 80. Son premier roman, Le Temps de Tamango, est publié en 1981. Il est philosophe de formation et journaliste. Et si on voit même les années de publication, le premier roman est publié en 81, le second 9 ans après, c'est quelqu'un qui fait autre chose. Et cette autre chose, justement, c'est son engagement en tant que journaliste et responsable d'une revue de publication donc d'un quotidien sénégalais. Il est donc très engagé et aussi comme philosophe, au fond, il se situe aussi, sans le dire souvent, dans la pensée qui dominait à l'époque quand il était étudiant, dans la pensée sartrienne de l'engagement. Et qu'est-ce que l'engagement ? C'est l'idée qu'un écrivain croit, à tort ou à raison, en tout cas c'est son sens éthique, qu'il peut changer, au moins améliorer les choses du monde par son écriture. Et là, Boris Diop est resté fidèle à ça, et pour cela, il a changé quand même aussi, puisque cet engagement était aussi celui des écrivains de la première génération, ceux de Mongo Betty, ceux de Sebène Ousmane, mais aussi de Ferdinand Oyonnax. Et qu'est-ce qui change avec les écrivains comme Boris Diop ? Mais aussi, il est de la génération de Sonny Labutansi, de la génération aussi de Thierno Monenembo. Ce sont des écrivains qui, tout en continuant la mémoire coloniale et en dénonçant, s'intéressent aussi à ce qui se passe dans les sociétés qu'on appelle actuellement post-coloniales. Donc, cette trame politique est continue, mais ce qu'il apporte de nouveau, et aussi avec les gens de sa génération, c'est que s'interroger sur la société, c'est aussi quand même la responsabilité de renouveler la façon d'écrire. Et cette façon d'écrire, on le voit déjà, c'est des récits complexes, des narrateurs complexes, mais qui se terminent toujours par une pensée éthique, morale. On le voit aussi dans Morambi, par exemple. C'est qu'il va écrire un roman à la manière d'un journaliste, ou plutôt d'un détective. Vous avez des personnages qui racontent chacun son point de vue, mais à la fin, il y a un personnage qui va faire la synthèse, c'est Simeo Habineza, et qui va conclure le roman en disant ceci, en s'adressant aux jeunes, en leur demandant de dépasser la vengeance. Et c'est un roman, somme toute, qui porte toute la politique de la réconciliation nationale, par exemple. Il a décidé aussi, donc, je crois que de s'opposer avec les gens de sa génération, je crois que Boyana l'a dit très bien, de comment écrire. Même en écrivant en français, en réalité, il introduisait déjà des voies divergentes où effectivement il y avait la place à la réflexion sur la langue d'écriture, sur les récits traditionnels. Comment mélanger les récits traditionnels avec aussi les récits qu'il connaît du monde, puisque tout écrivain est d'abord un lecteur. Exemple, le temps de Tamango se lit aussi par rapport à Mérimée, mais il ne se limite pas là. Kavena pose la question, par exemple, de la responsabilité des politiques, mais il ne prend pas position, il permet au lecteur lui-même de découvrir à travers les personnages quel est le point de vue adopté et contre ou pour la situation décrite dans le roman. Ce prix, à mon avis, vient à point nommé, puisque c'est de couronner un écrivain qui est resté fidèle au panafricanisme, je crois que ça a été dit, mais en même temps, qui ne limite pas l'écriture à l'auto-réflexion scripturale ou de l'écriture seulement, que l'écriture est toujours au service de la communauté. Et il continue dans les débats aussi, dans ses essais. Par exemple, l'Afrique au-delà du miroir, c'est du quotidien, mais aussi dans les prises d'opposition contre ce qui galvaude ou critique la pensée panafricaniste, ce qui disent que ce combat qui est celui des pères de l'indépendance est dépassé. Il est donc à la fois écrivain, romancier, nouvelliste, essayiste, mais en même temps un intellectuel engagé dans la cité et qui donc se donne à la polémique quand c'est nécessaire. Et notamment, je me rappellerai de cette discussion assez enrichissante entre les intellectuels sénégalais au sujet de l'état de Tchékanta Diop, que certains voudraient montrer qu'au fond, c'est du passé. Alors que justement, la littérature pose toujours la littérature dans quelle langue et pour quelle communauté. Et là, je crois qu'il est fidèle comme écrivain africain, mais comme écrivain tout court. Tout écrivain se pose la question de « mon récit n'a de sens que pour une communauté et dans une langue ».
L'Amérique et vous, en direct de Washington.
Jean-Pierre, Boris Diop dit qu'il a sa manière d'écrire avant Murambi et sa manière d'écrire après Murambi. Est-ce que vous pensez que Murambi devient un événement qui marque un tournant dans son approche littéraire?
Oui, certainement, certainement. Et il a souligné plusieurs fois, donc, en disant que pas seulement sa manière d'écrire avant ou après, mais aussi lui comme personne. Donc, c'est que ça a eu un impact énorme. Et il aime bien comparer même ses romans lui-même, ses romans avant, le Rwanda et ce roman après. Mais j'aimerais, avant de revenir sur Murambi et rebondir sur ce que professeur Josias a dit concernant l'écrivain Boubacar Boris Diop. Et il écrit, donc il a plusieurs styles, il aborde tous les genres possibles, donc, et en montrant même son travail comme journaliste, son travail comme philosophe, penseur africain, et puis donc tout ce qu'il a écrit pratiquement. Et je crois qu'une des meilleures définitions de Boubacar Boris Diop viendrait des... Cheikh Hamidou Kané, lui-même l'auteur de L'Aventure ambiguë. Et c'est dans un entretien de 1914, donc Afrique Culture, où on lui posait des questions sur les écrivains. Et ceci était sa réponse, je cite, « Boubacar Boris Diop est probablement le meilleur auteur sénégalais actuel. C'est un écrivain solide, constant, un vrai, un professionnel. » Et il est un écrivain engagé dans le sens le meilleur possible. Il n'est pas dogmatique, mais ce qu'il écrit a à voir avec l'Afrique et le monde. Et je crois que cela nous amène donc dans Murambi et justement ce qui a à voir avec l'Afrique et le monde, et c'est le cas par exemple de ce roman Murambi. Et donc quand il a écrit Murambi, dans l'introduction, il avait dit quelque chose en rapport avec ce roman en disant « J'espère ne pas avoir trahi leurs pensées ». Donc il a écouté plusieurs personnes, il a visité les différents sites du génocide, donc, et il voulait être proche de cette réalité. Et donc il avait intentionnellement choisi un style dépouillé, donc c'est différent de ses romans et précédents. Et je crois Boris et Bouyana ont souligné aussi la place du Rwanda ou la place de l'événement du génocide dans sa façon de repenser la littérature, c'est-à-dire ça l'a rapproché davantage d'une littérature africaine écrite en langue africaine, et d'ailleurs de façon Boris, qui ne manque pas d'humour, aime appeler cette littérature africaine d'expression anglaise ou française ou lusophone le péché originel de la littérature africaine. Donc penser une littérature dans une autre langue, donc il n'est pas tout à fait contre, mais il voudrait souligner l'élément important d'écrire en langue africaine.
Bouyana, quelle est l'importance à écrire dans une langue africaine chez Boris Diop? Et voudriez-vous aussi nous parler de cette maison d'édition, Edjo?
Oui, donc pour justement enchaîner sur ce que mes collègues viennent de dire, effectivement, parce que Murambi, c'est aussi un événement, on constate effectivement que le nom de cette maison d'édition, c'est un terme en Kinyarwanda, Ejo, ce qui montre effectivement le rapport qui existe entre cet événement, la publication de Murambi, et ce que Boris a ensuite accompli dans le domaine, je dirais, de l'industrie du livre, ou on pourrait appeler donc l'édition. Le Sénégal est un pays qui a sa particularité linguistique, comme tous les pays africains d'ailleurs ont des particularités variées. Le Sénégal est un pays où le français n'est pas parlé au quotidien. C'est la langue d'éducation, toujours, puisque c'est la langue officielle du pays. Donc les enfants apprennent le français à l'école, mais ils ne l'apprennent pas chez eux, à la maison. Boubacar Boris Diop lui-même raconte son expérience où il arrive pour la première fois à l'école, à l'âge de 5 ou 6 ans, où il n'avait jamais parlé français, et où il se met à apprendre toutes les matières dans une langue qui lui est étrangère. Et cela reflète très très bien ce que Ngugi Wa Thiong'o, par exemple, décrit dans Decolonizing the Mind, où il raconte des expériences similaires. Cet événement qui a été donc le génocide des Tutsis qui a entraîné cette prise de conscience, lui a permis de vraiment prendre du recul sur la pratique de l'écriture en langue française, qui au fond ne s'adressait jamais aux Sénégalais, mais s'adressait toujours à une France dont l'ombre était toujours en train d'occuper ce pays. Et donc il s'est rendu compte qu'il fallait plus ou moins trouver une solution, et il a pris ça à sa propre charge. Donc voilà, ça a entraîné la création de la maison d'édition pour contrer ce manque de livres en langue, dans une langue qui est utilisée par la majorité des personnes au Sénégal. Une fois de plus, c'est une maison d'édition qui ne publie pas uniquement en Wolof, mais dans toutes les langues nationales. Et Edjo est aussi ouvert à la publication dans toutes les langues africaines.
Nous arrivons au terme de cette édition de L'Amérique et vous. Nous parlions de la vie, l'œuvre de Boubacar Boris Diop et son prix littéraire Nesdat, qui lui a été décerné dans l'État américain de l'Oklahoma. Merci à Josias Semo-Djanga, professeur titulaire à l'Université de Montréal. Je rappelle que vous êtes notamment l'auteur de l'œuvre de Boubacar Boris Diop. Merci.
Merci beaucoup.
Merci à Jean-Pierre Kalegeye, professeur de littérature à Dickinson College en Pennsylvanie. Vous avez écrit la préface de Murambi, le roman au centre du prix de Boris.
Merci Eric.
Merci à la professeure Boyana Koulibaly, responsable des langues africaines à Harvard. Vous travaillez avec Boris Diop à la maison d'édition Ejo. Merci beaucoup.
Je vous remercie.
Eric Manilakis a été à la présentation. Michel Claire-Joseph à la mise en onde. Excellent week-end à vous tous.